Découvrir ou à Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, édition du mardi 22 juin 2021. Jean-Roger Villon à ce micro. Bonsoir à tous. À la une de nos informations, un prêtre catholique enlevé dans le centre du Mali avec plusieurs membres de sa congrégation alors qu'il se rendait à des funérailles. Au Burkina Faso, au moins 5 personnes ont été tuées et des policiers portés disparus après une embuscade dans le centre nord du pays. Élections législatives et régionales en Éthiopie, le premier ministre Abiy Ahmed a qualifié d'historique la journée du 21 juin. Les opérations de dépouillement se poursuivent. À suivre dans la partie magazine, États-Unis-Iran, les perspectives de l'accord sur le nucléaire après l'élection d'Ibrahim Raisi, un ultra-conservateur à la présidence iranienne. Ne manquez pas dans cette session d'information la Minute Éco et les sports, mais tout d'abord le journal. Un prêtre et un groupe de catholiques maliens ont été enlevés par des hommes armés alors qu'ils se rendaient à l'enterrement d'un autre abbé dans le centre du Mali. Des incidents qui interviennent alors que plusieurs villages se trouvent encerclés par des djihadistes toujours dans le centre du Mali. De Bamako, la correspondance de Mohamed Danyoko.
Après Farabougou, c'est au tour du village de Dinangourou d'être assiégé depuis presque un mois par les terroristes de la Katiba Massina, affiliés au groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, dirigé par Iyad Aghali. Selon une source locale, les villageois qui étaient allés chercher du carburant ont été attaqués par les terroristes, faisant 6 morts. 5 autres blessés ont été évacués dimanche dernier par la MINUSMA dans le cercle de Koro, région de Mopti. Si un accord intercommunautaire de libre circulation avait été conclu dans le cercle de Koro en février dernier, les terroristes de la Katiba Massina reprocheraient aux jeunes de Dinangourou, selon une source locale, d'avoir continué à collaborer avec l'armée. Par ailleurs, on apprend ce mardi l'enlèvement de 5 membres de la communauté catholique du Mali. Le groupe de fidèles se rendait hier à Saint pour prendre part aux obsèques de l'abbé local Oscar Terra, prévu ce mardi, ont indiqué les responsables de la communauté cités par l'AFP. Ils ont été enlevés à une trentaine de kilomètres au nord de Ségué, dans les environs de Wo, a précisé Cléophas Tienou, un responsable de l'église de Mopti, toujours cité par l'AFP. Mohamed Danyoko, VOA, Bamako.
Au Burkina Faso, une embuscade a fait au moins 5 morts, des policiers et plusieurs autres disparus dans le centre nord du pays. Ces policiers devaient relayer leurs collègues dans la zone, mais le bilan pourrait bien être plus lourd selon plusieurs autres sources locales et sécuritaires. De Ouagadougou, la correspondance de Lamine Traoré.
Au moins 5 policiers ont été tués lundi dans une embuscade sur l'axe Barsalogo-Foubé, c'est dans le centre nord, selon des sources sécuritaires. Une information relayée par plusieurs médias, dont l'AIB, l'agence d'information du Burkina, qui annonce aussi un bilan provisoire de 5 policiers tués, 7 retrouvés, 10 policiers portés disparus. Le gouvernement n'a pas encore réagi, mais des sources locales et sécuritaires annoncent un bilan bien plus supérieur de 11 morts, 7 rescapés et 4 toujours portés disparus. Selon des sources sécuritaires, 22 policiers étaient en route lundi après-midi pour assurer la relève au niveau de Yirgu dans le centre-nord du Burkina quand ils sont tombés dans cette embuscade terroriste sur l'axe Barsalogo-Foubé. La mort de ces policiers intervient quelques 2 semaines après l'attaque de Solan dans le Sahel. Au moins 132 personnes selon le gouvernement et 160 selon des sources locales avaient été tuées. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Une centaine de miliciens se sont rendus aux forces régulières dans l'est de la République démocratique du Congo, dans la province du Nord Kivu, placée en état de siège. Au total, 134 combattants munis d'environ 70 armes se sont rendus à l'état-major de l'armée à Kichanga, a déclaré le colonel William Amissi, commandant du régiment au nord-est de Goma. Parmi ces combattants figurent des membres des rebelles Hutu rwandais des FDLR et des miliciens du groupe armé Nyatura Abazungu, a expliqué de son côté le major Guillaume Njikekeko, porte-parole de l'armée dans la région. Les autorités de Kinshasa ont annoncé avoir renforcé les mesures pour lutter contre la propagation du coronavirus dans la capitale de la République démocratique du Congo, épicentre de la pandémie dans le pays, selon un communiqué de la mairie. La vente sur la voie publique est désormais interdite sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa. Le rassemblement de plus de 20 personnes dans les lieux publics ou privés clos est proscrit, indique un arrêté du gouverneur de Kinshasa, Gentini Ngobila. Les églises sont aussi astreintes à réduire le nombre de participants à 50% de leur capacité d'accueil. Il en est de même pour les restaurants qui sont autorisés à fonctionner jusqu'à 21 heures. Au Rwanda, les autorités ont également annoncé lundi soir de nouvelles restrictions pour lutter contre la propagation du COVID-19. Parmi les mesures, il y a l'interdiction des mariages et de tous les rassemblements. Mouamadou Mfa nous en dit plus.
Tous les rassemblements sociaux comprenant des festivités de toutes sortes sont interdits, a annoncé le gouvernement dans un communiqué précisant que les mariages traditionnels, civils et religieux sont suspendus. En outre, le gouvernement souligne l'importance cruciale de respecter les mesures sanitaires avec notamment le port du masque, la distanciation physique et le lavage des mains. Des amendes seront infligées en cas de non-respect, souligne le gouvernement. L'extension d'un couvre-feu à l'échelle nationale de 19h à 4h heure locale, des restrictions de mouvement entre les districts et la suspension des voyages en avion vers l'Ouganda voisin où les cas de coronavirus se multiplient figurent parmi les autres mesures qui doivent entrer en vigueur demain mercredi. Le Rwanda a jusqu'à présent évité le pire en appliquant les mesures de confinement parmi les plus strictes du continent et en mettant en œuvre un système rigoureux de tests et de recherche de cas contacts. Les autorités ont compté en seulement 24 heures 662 cas et 7 décès.
La justice burundaise a ramené de 32 ans à une année de prison la peine de Germain Rukuki, un militant des droits de l'homme. Germain Rukuki avait été condamné en 2018 à l'une des plus lourdes peines jamais infligées à un militant des droits de l'homme au Burundi. Il avait été arrêté en 2017 pour avoir participé en 2015 à des manifestations contre la candidature à un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza, aujourd'hui décédé. M. Rukuki, qui a déjà purgé sa peine, devrait être libéré immédiatement. Au lendemain des élections en Éthiopie, les opérations de comptage des voix sont toujours en cours. Le double scrutin législatif et régional n'a pu être organisé dans un cinquième des 6 circonscriptions pour des raisons sécuritaires ou logistiques. Claire Morin-Gibou.
Le Premier ministre Abiy Ahmed a salué comme historique la journée d'hier, malgré le fait que 20% des circonscriptions sont restées fermées. Toutes les couches de la société sont sorties pour faire entendre leur voix lors des premières élections libres et équitables de notre pays, a-t-il écrit sur Twitter. Il a également appelé tous les partis politiques à poursuivre le processus pacifique jusqu'à la fin du décompte des voix et l'annonce des résultats. La journée de lundi s'est déroulée globalement dans le calme, selon la commission électorale, qui a toutefois rapporté des actes d'intimidation de représentants de partis dans les régions de l'Amhara et de l'Afar. Le parti de la prospérité du Premier ministre Abiy Ahmed demeure le grand favori pour remporter la majorité au Parlement fédéral. Les premiers résultats ne sont pas attendus avant plusieurs jours.
Le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok a appelé aujourd'hui à l'unité entre les acteurs politiques et militaires du pays, mettant en garde contre des fractures profondément inquiétantes au sein de l'armée soudanaise. Le Soudan est actuellement dirigé par un gouvernement civilo-militaire, né d'un accord en août 2019 après la chute de l'ex-autocrate Omar el-Béchir, chassé du pouvoir après plusieurs mois de manifestations populaires. Depuis, Khartoum fait face à des défis de taille, dont une économie désastreuse héritée des 30 ans de règne de M. Béchir, marquée par les conflits armés et les sanctions internationales.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les talibans ont pris le contrôle aujourd'hui du principal poste frontière avec le Tadjikistan dans le nord de l'Afghanistan ainsi que des districts qui conduisent à la capitale du nord-est, Kunduz. Deux membres du conseil provincial, Amrouddin Wali et Khalidin Hakmi, ont confirmé la prise du point de passage de Shere Khan qui relie l'Afghanistan au reste de l'Asie centrale. En Birmanie, au moins 4 opposants à la junte et 2 membres des forces de sécurité ont été tués ce mardi dans des affrontements à Mandalay, la deuxième ville du pays. Washington a appelé d'urgence à la cessation de la violence depuis que l'armée a pris le pouvoir le 1er février et destitué le gouvernement élu d'Aung San Suu Kyi. Les forces de sécurité ont réprimé dans le sang le mouvement de protestation avec plus de 870 civils tués selon une ONG locale. Le Canada a dénoncé aujourd'hui à l'ONU, au nom d'une quarantaine de pays, la situation des droits humains dans la région chinoise de Xinjiang et à Hong Kong, tandis que Pékin a répliqué en demandant une enquête sur les violations des droits des autochtones canadiens. La déclaration conjointe sur la Chine, lue par le Canada devant le Conseil des droits de l'homme, était attendue depuis quelques jours par de nombreux diplomates et ONG à Genève, laissant le temps à Pékin de préparer sa défense. Le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez a annoncé aujourd'hui la grâce de 9 dirigeants indépendantistes catalans qui ont été condamnés pour leur implication dans le référendum d'autodétermination d'octobre 2017. Les 9 dirigeants qui purgent actuellement des peines allant de 9 à 13 ans de prison restent en revanche interdits d'occuper une fonction publique. Ils devraient être libérés après la publication de cette décision au journal officiel. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, la Minute Écho avec Nathalie Barge.
Le président congolais Denis Sassou Nguesso et son homologue chinois Xi Jinping ont convenu de restructurer à nouveau la dette congolaise envers Pékin, selon le ministre des Finances Rigobert Roger Andelli. Cela permettra au Congo d'améliorer ses relations avec le FMI, a souligné M. Andelli. Le pays doit à la Chine 1300 milliards de francs CFA, a dit hier à l'Assemblée nationale le premier ministre Anatole Kolinebakoso. En République démocratique du Congo, les évêques catholiques ont appelé à une compensation des populations pour leurs efforts de sauvegarde des forêts lors d'une session hier de la Commission épiscopale pour les ressources naturelles. La ministre de l'Environnement, Eve Bazeba, a abondé dans le sens de la SENCO en disant que le peuple congolais a le droit de bénéficier d'une compensation équitable. L'initiative Cacao Côte d'Ivoire Ghana, destinée à garantir un prix rémunérateur aux planteurs, a tenu sa première réunion lundi à Abidjan. Les deux pays se sont déjà engagés en 2019 dans une initiative conjointe pour assurer des revenus minimums aux cultivateurs avec le versement d'une prime au-delà du prix du marché.
Place maintenant au sport avec Yakuba Ouedraogo.
Bonsoir à tous. Arrivé samedi à Tokyo pour les Jeux Olympiques, la délégation ougandaise a été placée en quarantaine après un cas positif au Covid-19, annonce ce mardi les autorités japonaises. Les 8 membres de l'équipe ougandaise qui accompagnaient un entraîneur testé positif à sa descente d'avion à l'aéroport de Tokyo ont été déclarés cas contact et resteront placés en quarantaine jusqu'au 3 juillet. Les membres négatifs de l'équipe ont été autorisés à se rendre dans leur camp d'entraînement à Izumisano, près d'Osaka, tandis que leur entraîneur a été isolé. Il s'agit du premier cas positif concernant un participant au JO prévu du 23 juillet au 8 août prochain. Pour rappel, l'équipe australienne de softball a été la première délégation étrangère olympique à arriver au Japon le 1er juin dernier. Des nouvelles de l'Euro, les différentes équipes effectuent leur dernière sortie dans la phase de groupe. Le groupe D joue ce soir. L'Angleterre et la République tchèque en tête de cette poule s'affrontent tandis que l'Écosse et la Croatie croisent les crampons. Hier, certaines équipes ont confirmé leur première place et d'autres ont arraché leur ticket pour les huitièmes de finale. Le point avec Bagassi Koura.
Oui, dans la poule B, la Belgique, déjà qualifiée pour les huitièmes, est venue à bout de la Finlande 2-0 au terme d'un match longtemps indécis à Saint-Pétersbourg. Avec cette défaite, la Finlande n'a plus son destin en main et devra attendre pour savoir si elle doit accéder aux huitièmes de finale comme l'une des meilleures troisièmes. Dans l'autre match du groupe B, le Danemark, large vainqueur de la Russie, 4-1, s'est qualifié pour les huitièmes. Dans la poule C, l'Autriche est sortie pour la première fois des poules d'un euro après sa victoire 1-0 à Bucarest contre l'Ukraine, qui doit aussi attendre le classement des meilleurs troisièmes pour connaître son sort. L'Autriche affrontera l'Italie en huitième de finale à Wembley le 26 juin. Dans l'autre rencontre du groupe C, déjà assuré de la première place de cette poule avant le coup d'envoi, les Pays-Bas n'ont fait qu'une bouchée de la Macédoine du Nord, 3-0.
Merci Bagassi. Basketball universitaire ici aux États-Unis. La Cour suprême a ouvert la voie au paiement des athlètes universitaires actuellement privés de tout salaire, appelés à se prononcer sur l'attribution à ces sportifs d'avantages de nature éducative comme les ordinateurs, les équipements scientifiques, les instruments de musique, entre autres. Les juges ont décidé que les limites fixées en la matière par l'Association nationale des athlètes universitaires violent les lois qui protègent la concurrence. Ils ont rappelé qu'en 2016, les premières divisions de football américain et de basketball universitaire ont généré 13,5 milliards de dollars de revenus. Pendant ce temps, les sportifs bénéficient seulement d'une prise en charge du coût de leurs études et parfois d'une prime de performance plafonnée à 5 980 dollars par an.
Page de sport signée Yakuba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. En République démocratique du Congo, la conférence épiscopale nationale vient de tenir sa 58e assemblée plénière. Elle demande la dépolitisation de la commission électorale nationale indépendante en référence à une loi déjà votée au Parlement et que les évêques estiment être en faveur de l'actuelle majorité au pouvoir. Edil Sango a joint à Kinshasa le secrétaire général de la CENCO, l'abbé Donatien Ncholé.
Les évêques ont déploré le fait que cette loi maintient la politisation de la CENI, ce qui ne rassure pas les acteurs politiques et sociaux. Et ils font des recommandations parce qu'il y a un grand travail qui est encore à faire dans le cadre de ces réformes, à savoir la réforme de la loi électorale. Alors les évêques souhaiteraient que les choses soient corrigées à ce niveau-là pour donner au peuple congolais une loi qui va renforcer la gouvernance électorale qui est fondamentale dans une démocratie.
Mais la loi électorale ne changerait pas la constitution de la CENI telle qu'elle est déjà passée au niveau de deux chambres du Parlement et ne reste plus qu'à être promulguée par le président.
Au niveau de la composition de la constitution de la CENI, l'unique espoir qui reste, c'est que le chef de l'État puisse revoir les choses. Autrement, on sera obligé de chercher à corriger, pas par rapport à la composition, mais renforcer la loi pour garantir l'indépendance. C'est ça le souci. Donc, l'indépendance de la CENI tient aussi compte de la composition, mais tient surtout compte aussi des mécanismes légaux.
La réponse qui a été donnée par les juristes qui sont au niveau de l'Assemblée nationale était que la CENI est une institution hautement politique. Ne pouvait en être autrement.
Il y a plusieurs façons de faire. Il y a des pays où la CENI, plutôt les élections sont organisées par le ministère de l'Intérieur. Ça dépend de l'environnement politique. Donc, les évêques prennent position par rapport à notre environnement politique.
Et si ce n'est pas fait, qu'est-ce que sera votre attitude?
Écoutez, les évêques sont des pasteurs. Ils disent ce qui ne va pas, ils font des recommandations sur ce qui peut être fait, c'est tout.
L'abbé Donatien Ncholé, secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo.
VOA Afrique, votre rendez-vous quotidien à Kisangani sur 97.7 FM.
Les présidents congolais Denis Sassou Nguesso et chinois Xi Jinping ont convenu lundi, lors d'un entretien téléphonique, de restructurer la colossale dette de Brazzaville envers Pékin, une dette de 1300 milliards de francs CFA qui empêche le Congo de reprendre des négociations avec le Fonds monétaire international. Pour une analyse, Mouamadou Nfa a joint Hervé Telamba, enseignant à Howard University, ici aux États-Unis.
Il faut d'abord dire que le Congo n'aurait dû jamais avoir de dette avec qui que ce soit parce que le Congo a eu des excédents budgétaires pendant la croissance des prix du baril du pétrole. Donc de 2000 à 2010, le Congo a fait des excédents budgétaires qui étaient énormes. En dehors de ça, en 2008, le Congo est rentré dans un programme sans financement avec le Fonds monétaire international pour devenir éligible au programme PPTE. En 2010, le Congo reçoit une suppression de sa dette de 5 milliards de dollars. Et pendant toute cette période de temps, il y a eu des excédents budgétaires qui sont rentrés dans les caisses de l'État. Le Congo a eu des démarches qui partout dans le monde étaient un peu extravagantes parce qu'ils ont eu beaucoup d'argent dans leur possession. Donc je peux simplement expliquer la dette. Il y a une dette réelle, il faut comprendre, vis-à-vis de la Chine. Mais il y a aussi une dette qui est la résultante des mécanismes opaques de corruption. Parce qu'en fait, quand je parle de la dette réelle, c'est-à-dire que c'est une dette qui a été engagée avec la Chine, le gouvernement chinois, mais il y a aussi une partie de la dette qui a été engagée par des compagnies privées, certains responsables qui créent des compagnies en association avec des Chinois et qui empruntent de l'argent pour se faire eux-mêmes de l'argent.
Il y a cette dette-là qui est énorme et les deux chefs d'État, les chefs d'État des deux pays auraient convenu de restructurer cette dette. Qu'est-ce que cela pourrait signifier concrètement ?
c'est pas la première fois que le gouvernement congolais avec le gouvernement chinois s'engage à une restructuration de la dette. Vous savez qu'en 2019, le Congo était dans un programme avec le Fonds monétaire international et parmi les conditions qu'on avait demandées au Congo, c'était de restructurer sa dette. Elle avait fait, je crois qu'elle avait été arrivée à un moment donné de restructurer sa dette. Le problème, c'est qu'il y a toujours une certaine opacité avec la dette chinoise parce que les créanciers chinois rédigent des clauses de confidentialité qui est aujourd'hui une restructuration de la dette. Ça ne nous étonne pas, mais nous pensons simplement qu'au bout du compte, le résultat est le même. Le Congo est un État en déliquescence. Un gouvernement conduit par M. Sassou Nguesso ne pourra jamais permettre le développement du Congo. Impossible.
Donc le FMI demande aux autorités de rendre cette dette à des niveaux soutenables. Est-ce que le FMI peut faire pression sur les autorités pour améliorer les conditions d'endettement ou le niveau d'endettement du Congo?
Le FMI a déjà 48 mesures qu'ils avaient imposées au gouvernement qui n'ont pas été respectées. Je pense que s'ils n'ont pas respecté ces 48 mesures, ils ne vont pas les respecter maintenant parce que la volonté politique n'existe pas, parce que c'est un problème de dirigeants. Le Congo n'a pas de problème enfin économique, on devrait dire. Le Congo a un problème de gouvernance, de bonne gouvernance.
Hervé Telamba, enseignant à Howard University à Washington.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Crise nutritionnelle de grande ampleur dans le sud du Niger et nord-ouest du Nigeria. Les deux régions doivent faire face à la période de soudure et au pic saisonnier de paludisme. Les structures sanitaires dans la région de Maradi au Niger sont déjà confrontées à un afflux inhabituellement élevé d'enfants malnutris. Pour en parler, Eric Manirakiza, agent à Dakar au Sénégal, le responsable des opérations pour Médecins sans frontières en Afrique de l'Ouest. Issiaka Abdou.
Nous avons constaté depuis le début de l'année une augmentation de plus de 34% des admissions dans les centres de prise en charge en ambulatoire et une augmentation de plus de 46% au niveau de l'hôpital de Matarumfa. Ces chiffres, si on les compare à l'année passée, donc ils sont largement supérieurs. Et la situation devait empirer à mesure qu'on entre dans la période de soudure agricole et la saison des pluies qui correspond donc au pic de paludisme. Donc une crise nutritionnelle et alimentaire majeure semble se profiler. C'est pour ça que Médecins sans frontières se mobilise pour élargir ses activités à d'autres structures sanitaires.
Il n'y a pas une autre alternative pour répondre à cette urgence humanitaire?
Il y a eu des progrès qui ont été réalisés au Niger dans la lutte contre la malnutrition et la mortalité infantile. Il ne faut pas, à notre avis, donc menacer ces acquis en se désengageant de la problématique. C'est pour ça que nous pensons que les bailleurs ne doivent pas baisser leur financement sur les régions de Zender et Maradi qui sont des foyers de la malnutrition infantile. La priorité est de garantir que le système de santé ait les moyens cette année de fonctionner à plein régime et de faire face au pic saisonnier qui s'annonce très critique. De l'autre côté, au Nigeria, le système de prise en charge est encore insuffisant. C'est une situation différente. Il faut construire le dispositif et pour ça, il faut davantage d'acteurs humanitaires opérationnels sur le terrain pour épauler les autorités sanitaires et délivrer des services médicaux nutritionnels. Parmi d'autres solutions qu'on peut envisager, effectivement, il faut développer la capacité de prendre en charge les enfants en ambulatoire, endiguer l'avancée d'autres maladies en travaillant davantage dans la prévention. Il faut distribuer à grande échelle des compléments nutritionnels aux enfants, surtout en cette période où les enfants n'ont pas accès donc à l'alimentation équilibrée. Il faut aussi, c'est important, développer la production locale ou régionale d'aliments thérapeutiques prêts à l'emploi, qu'on appelle les plantes-notes, pour les rendre plus accessibles et travailler pour sécuriser l'approvisionnement jusqu'au centre de santé. Ensuite, il faut lutter efficacement contre le paludisme, mettant en place la chimiothérapie, la chimioprévention du paludisme saisonnier, pour les enfants qui consistent à fournir un traitement préventif aux enfants âgés de 3 mois à 5 ans lors des mois de forte incidence donc de la maladie.
Issiaka Abdou, responsable des opérations pour MSF en Afrique de l'Ouest.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Notre Ormandia avec vous. Cette semaine, Washington Forum braque ses projecteurs sur le sort des réfugiés et déplacés dans le monde. Chaque minute, 20 personnes sont forcées de s'enfuir à cause de la guerre, la persécution ou le terrorisme selon les Nations Unies. Ces 12 derniers mois ont été particulièrement durs pour les réfugiés à cause de la pandémie de Covid-19. L'OHCR lance de plus en plus des appels de fonds pour faire face à la hausse croissante du nombre de réfugiés à cause de la multiplication des foyers de tension, forçant le déplacement de populations. Comment assurer une meilleure prise en charge des réfugiés? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
L'Iran a élu un président que les observateurs estiment être un fidèle du chef suprême, l'Ayatollah Khamenei, et qui a proclamé qu'il ne rencontrera pas le président américain Joe Biden. Quel poids pour Ibrahim Raisi dans les négociations sur le nucléaire? Mise en perspective, Caroline Pressouti, correspondante de la VOA à la Maison-Blanche, récit Yacouba Ouedraogo.
Le président élu de l'Iran, Ibrahim Raisi, est un ultra-conservateur qui a remporté une élection présidentielle avec un taux de participation particulièrement bas. Dans sa première conférence de presse, il a répondu sèchement à la question s'il est prêt à rencontrer le président américain Joe Biden.
Hey, non.
Cela n'a pas surpris l'attaché de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki.
Notre point de vue est qu'il y a un décideur ici qui, et cela n'a pas changé, est le guide suprême.
Les États-Unis et 5 autres pays négocient les nouvelles conditions de l'accord sur le nucléaire iranien de 2015. Raisi affirme que le programme de missiles iranien n'est pas négociable. Il accuse aussi les États-Unis d'avoir rompu leurs promesses.
Vous étiez obligé de lever les sanctions et vous ne l'avez pas fait. Revenez et remplissez vos engagements. Aux Européens, j'ai dit qu'ils ne devraient certainement pas rester sous la pression de la politique américaine.
L'attaché de presse de la Maison-Blanche, Jen Psaki, qualifie cela de la fanfaronnade et affirme que les sanctions réimposées par l'ancienne administration Trump font partie des discussions visant à raviver l'accord de Vienne.
Nous comprenons certainement, comme nous l'avons vu lors des cycles précédents de ces négociations, qu'il y aura une gamme de rhétorique pour répondre aux besoins politiques. Nous comprenons cela, mais nous restons concentrés sur ces négociations que nous sommes impatients de poursuivre.
Ibrahim Raisi, président élu de l'Iran, est lui-même sous sanction américaine en tant que suspect dans l'exécution de milliers de prisonniers politiques en 1988. Pour rejeter cette accusation, il s'est qualifié lui-même de défenseur des droits de l'homme lors de la conférence de presse. L'ancien prisonnier Iraj Meshdaji a déclaré que le nouveau président dirigeait la commission de la mort.
Il a joué un rôle très actif par rapport aux autres membres de cette commission de la mort.
Jen Psaki, attaché de presse de la Maison Blanche, revient sur les sanctions contre le président élu et son pays.
Le nouveau président sera bien entendu tenu pour responsable des violations des droits humains qu'il a commises. À l'avenir, nous exhortons vivement le gouvernement iranien, quel que soit le pouvoir, à libérer les prisonniers politiques, à améliorer les droits de l'homme et les libertés fondamentales pour tous les Iraniens.
Ibrahim Raisi est un protégé du guide suprême, l'Ayatollah Ali Khamenei. Les observateurs disent que des défis importants l'attendent. Farzaneh Roustaye est une journaliste iranienne résidant à Stockholm, en Suède.
Le président dépasse ses capacités. Il n'est pas capable d'aborder les problèmes de la crise économique iranienne ou des problèmes très complexes et difficiles, voire impossibles à résoudre.
Personne ne sait quand les 6 puissances mondiales se réuniront à nouveau pour discuter de l'accord sur le nucléaire iranien. Le conseiller américain à la sécurité nationale affirme que l'écart est grand sur certaines questions importantes.
Écoutez VOA Afrique désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains. Du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique dans tout le continent africain sur la chaîne 555 de Canal.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute la rédaction et à notre équipe de production. Jean-Roger Billon à ce micro. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.